Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission FL Shop sur la fréquence Flandre-Lys. FL Shop, l'émission qui vous emmène d'habitude à la découverte de l'univers d'un commerçant, d'un artisan, de l'art mantirois. Mais une fois n'est pas coutume, cette semaine, FL Shop, pour sa rentrée, car oui messieurs, oui mesdames, c'est la rentrée d'FL Radio cette semaine, eh bien on va s'intéresser à une association. Et cette association, c'est Solaire en Or, une association qui promeut l'énergie solaire et qui fête cette année ses 20 ans. Et pour en parler, et pour parler de cet anniversaire, mais aussi d'énergie solaire, de mix énergétique, d'énergie renouvelable, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Janson, qui est l'un de ses responsables. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et pour m'accompagner et pour dialoguer avec Thierry, j'ai toujours avec moi donc Quentin qui a préparé cette émission avec beaucoup de soin.
Et oui, et ben, ravi de refaire encore une année de plus à FL Radio. Et puis ouais, comme tu l'as dit, on va parler un petit peu énergie renouvelable, les enjeux climatiques pour les prochaines années et surtout son développement et quels intérêts. Ou quels inconvénients il peut y avoir à certaines énergies.
Et puis Julien, qui nous a rejoint cette année en qualité d'animateur des FL Radio et qui découvre cette semaine les émissions qui vont être proposées dans la nouvelle grille. On parlera de tout ça dans le mag bientôt. On parle un petit peu de Solaire en Or, une association qui est quand même pignon sur rue dans les Hauts-de-France, qui est une des plus vieilles associations, Thierry, qui parle de solaire.
C'est même la première de France, parce qu'elle a été créée donc, en 2005. Et donc, il y a une association nationale qui s'appelle le GPPEP, qui a été créée 2 ans après.
Donc, on a la chance d'avoir... avec nous aujourd'hui, la plus vieille association, la plus ancienne des associations qui parle du solaire.
Du solaire photovoltaïque particulier. Parce qu'en fait, des associations pour le photovoltaïque, il y a des grandes associations comme ESPUL qui sont basées sur Lyon, qui militent depuis longtemps, qui ont fait des expérimentations aussi en montagne sur du photovoltaïque, avec des panneaux qui fonctionnent déjà depuis 30 ans. Donc, eux, c'est vraiment la référence. Quand on veut en avoir plein la tête, on peut y aller, il y a du texte.
Alors, qu'est-ce qui a amené des gens du Nord, des gens des Hauts-de-France, à créer autour de toi également cette association?
Alors, la motivation, c'est le développement du solaire, en fait. C'est surtout ça, c'est de se dire, on va produire son énergie.
L'idée qui était derrière soi, c'est devenir producteur d'énergie.
Voilà, c'est ça. Donc, je suis photographe de métier. Et en fait, on dit toujours que le Nord, c'est gris, qu'il ne fait jamais beau. Et c'est vrai qu'à un moment, je faisais une photo par jour du ciel. Il y a quand même beaucoup de journées où il y a du ciel bleu. Et c'est vrai que les chiffres... Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de développement des énergies, de la maîtrise de l'énergie, donnait des chiffres de production photovoltaïque. On était les plus mauvais, hein.
On était dans le fond de la grille à cause du taux d'ensoleillement de la région.
Le taux d'ensoleillement qui est le moins important en France, mais quand on se situe par rapport à l'échelle de l'Europe, par rapport au nord de l'Angleterre, on a quand même un petit peu plus de soleil. La Côte d'Azur en Angleterre, on a le même ensoleillement hein, au sud de l'Angleterre et au nord de la France. Donc moi, c'était une de mes motivations aussi principales. C'était aussi de redorer un petit peu l'image du Nord en disant, voilà, nous aussi, on peut faire de l'énergie solaire.
Mmh. Et quelle était la mission que s'est donnée l'association Solaire en Or à sa création? C'était de faire du lobbying ou bien c'était de faire de la vulgarisation parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, l'énergie solaire, ce n'était pas très connu.
Non, on avait, bon, à part justement les sites comme ESPUL, où vraiment on avait beaucoup d'infos, donc on peut parler de vulgarisation, où on essayait d'expliquer simplement comment ça marche et pourquoi ça marche. Donc, moi j'étais producteur en 2003, on s'est retrouvés, on était une dizaine, et en 2005, on a créé l'association Solaire en Or sur l'idée d'informer, d'agir. Pour développer informer, aider et agir, pardon. Il y en a 3. Pour justement développer le solaire photovoltaïque Dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, c'était le Nord-Pas-de-Calais.
Donc c'était en fait des gens qui s'étaient déjà lancés dans la production d'énergie à travers le solaire, qui avaient envie de faire connaître leurs expériences
C'est ça.
et de...
C'était une belle aventure où on s'est retrouvés. Moi, j'ai eu un choc culturel parce que je suis photographe de métier, donc un peu artiste, on va dire. Et j'avais en face, moi, les membres du conseil d'administration, deux profs de physique. Donc c'est vrai que pour parler, faire un site internet, etc., c'était un peu compliqué, mais bon, on a quand même réussi, on a travaillé plus de 15 ans ensemble, tous les vendredis matins, à faire des textes. Pour moi, c'était une très belle aventure, et je pense qu'on a bien réussi à... En fait, on a eu la chance, moi c'était pas une chance, c'était des preuves, en fait, sur un des producteurs. Qui était à l'époque, on faisait de la vente du surplus déjà dès le début. Et donc, il avait une installation plein sud, 30 degrés plein sud. Et il a produit, alors je vais donner des chiffres, 1 000 kWh par an par kilowatt crête.
Alors
Alors
c'est quoi un
tout à l'heure,
kilowatt
je donnais,
crête?
alors tout à l'heure, je parlais de l'ADEME. L'ADEME donnait 850 kWh par kilowatt crête. En fait, il prenait le ratio de ce qui se produisait, de ce qu'on produisait à Marseille, de ce qu'on produisait à Lyon et à Paris. Et comme on a moins d'ensoleillement, ils en arrivaient à 850. C'est ce qui est à peu près normal, parce qu'ils font 1 400 à Marseille. Donc comme on a 50% moins de soleil, voilà. Donc en fait, la puissance crête, un panneau, c'est voilà, c'est une puissance en fait, hein, la puissance crête. Donc généralement, les panneaux chez les particuliers, c'est 3 kilowatts crête, parce qu'il y a un plafond, en fait, après la TVA change. Donc, c'est devenu la norme, en fait, le 3 kilowatts crête. Et donc, ce qu'on peut produire sur une année avec 3 kilowatts crête en Hauts-de-France, c'est 3 000 kilowattheures par an. Donc, avec forcément plus d'énergie juillet-août que janvier-février. Voilà. Donc, quand on a eu ces chiffres, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, on a commencé à créer un site internet, et donc des opérations de lobbying. On a contacté des élus pour justement expliquer pourquoi ça marche. Et on a fait énormément de courriers sur les 20 ans là qu'on a travaillé. Donc, les membres du CA. Moi, j'ai quitté l'association en 2020. Donc je ne suis plus président, là je suis en tant qu'adhérent et bénévole. Et voilà, donc
Et comment ça a été reçu à l'époque, le fait de prendre rendez-vous avec un maire ou une institution quelconque pour dire, est-ce que vous avez pensé à l'énergie solaire?
c'est vrai qu'au départ, on nous prenait un peu, du moins, tout au moins moi, on me prenait un peu pour un fou, quoi. Pourquoi faire du solaire? On a vraiment une image, en plus une image.
Surtout que le gaz était quasiment gratuit dans
Oui,
les
c'est ça.
Hauts-de-France, il venait de
Et
Groningue directement, il n'y avait pas de
voilà.
souci.
Donc, bon, après, ça s'est fait progressivement parce que, bon, il y a eu des étapes dans le photovoltaïque. En 2006, il y a eu un tarif d'achat qui était extraordinaire, parce qu'on est passé de 15 centimes d'euros le kilowattheure à quasiment 60 centimes d'euros le kilowattheure.
C'est-à-dire le prix
Le prix
auquel
d'achat.
EDF rachetait
Acheter,
le...
voilà. Hein. Donc après, dans notre idée de particulier, on s'est dit, bah, c'est bien de faire que chacun fasse son petit colibri, en fait, en faisant de la production, mais pourquoi pas créer des coopératives citoyennes. Donc ça, c'était déjà dès 2007. Donc, il y a eu des projets de discussion avec la ville de Lille, de création de coopératives citoyennes, avec, dans l'idée, c'était d'utiliser les bâtiments publics, les écoles, des salles de sport, de les équiper en photovoltaïque avec une contribution citoyenne, donc une participation de la commune. Donc ça a été initié par l'association dès 2007. Et la première coopérative citoyenne en Hauts-de-France a été créée en 2012. Donc ça a mis énormément de temps parce que voilà, il a fallu faire des modèles, il fallait trouver un modèle économique. Bon, ce modèle économique s'est un petit peu cassé la figure parce que ça, c'est la politique française énergétique, c'est-à-dire qu'on crée un tarif extraordinaire,
Attractif.
attractif en 2006, et en 2010, on arrête tout. Et ça continue, en fait, hein. Au niveau national, il n'y a pas de cohérence dans la politique de développement des énergies renouvelables. Si on, donc là, pour prendre l'exemple de la PPE, c'est donc la loi de programmation pluriannuelle de
Très en
l'énergie,
discussion actuellement.
très en discussion, c'est toujours pas sorti. Il y a quelque temps, il y avait
Les
donc...
premiers ministres passent, mais le décret est toujours sur le bureau.
Voilà, c'est ça, voilà. Donc bon... on a réussi à travailler en fait avec la ville de Lille, après avec la métropole européenne de Lille, sur ce projet de coopérative. Et c'était bon, on était même, on a anticipé aussi sur le devenir du photovoltaïque. C'est tout à l'heure, je disais bon, 15 centimes, on était, les gens, ils étaient à 15 centimes, ils étaient en vente du, plusieurs en vente du surplus parce que finalement c'était le même prix quand on l'achetait que quand on le vendait. Donc après, forcément, à 55, 60, c'était mieux de le vendre totalement. Et donc il y a eu un tarif, comme ils ont forcément fortement baissé ce tarif d'achat, ils ont créé un tarif d'autoconsommation en 2017. L'association, on a commencé à travailler sur des kits 1 kg bois de crête, donc testés, qu'on pose nous-mêmes. En autoconsommation. Voilà, on a commencé à avoir une expérience sur justement ce qui allait arriver 5 ans plus tard. On a travaillé avec des entreprises locales pour qui vendaient des kits solaires. On a fait des opérations groupées et en fait, on s'est rendu compte qu'avec un kit de 1 kg de crête, on consommait tout. Et bon, ça a continué avec. On a eu la chance justement d'être aidé par la région. Donc c'était APC 2020, c'était autoconsommation photovoltaïque, donc à échéance 2020, et c'était travailler avec l'ENSAM, donc les arts et métiers. Donc on a travaillé avec deux ingénieurs. Ils ont équipé donc le premier producteur qui nous servait de référence, et ils ont mesuré à la seconde près ce qu'ils consommaient et ce qu'ils produisaient. Donc on a un outil formidable, et ils ont fait des tests sur... Qu'est-ce qu'on fait? Parce que forcément, nous, on le savait déjà, en fait, avec notre opération de kit 1 kilo, on savait déjà qu'on allait avoir du surplus. On avait constaté qu'après, dès qu'on est sur 3 kilos, donc on a plus de puissance, on n'a peut-être pas autant de consommation chez nous, donc on arrivait à des taux d'autoconsommation de 40%. Donc il y a 60% qui ne sont pas autoconsommés.
Et qui sont donc disponibles.
Ils sont donc disponibles. Donc, avec les ingénieurs de l'ENSAM, ils ont travaillé, ils ont étudié du stockage déjà sur batterie, sur un cumulus, c'est-à-dire on pilote et puis on fait marcher son cumulus dans la journée. Et on a des taux d'autoconsommation qui s'améliorent en fait. Au lieu d'être à 50, on passe à 60, 70. Bon, après, voilà. Et après, il y a la batterie en fait. Donc voilà, on a commencé à travailler sur ça très vite.
On va continuer cette conversation autour donc de ces 20 ans de l'association Solaire en Or et des questions qui concernent le mix énergétique essentiellement à destination du particulier dans un instant. Et en attendant, on s'écoute Genesis sur FL Radio.
Is the way I want. I can dance.
Eh bien, un petit saut en arrière également avec Genesis et ce titre à Can Dance. Vous êtes toujours à l'écoute donc, de Eiffelshop, pardon, qui reçoit aujourd'hui Thierry Janson, qui est un des responsables, simple bénévole maintenant nous a-t-il dit il y a un instant, de l'association Solaire en Orme et qui en fut le président. Une association qui promeut le solaire et qui fête cette année ses 20 ans. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de dossiers qui ont marqué ces 20 ans Solaire en Or?
Alors, je dirais le principal combat de l'association, c'était les idées reçues. C'est tout ce qu'on peut véhiculer.
Il en reste, on le verra tout à l'heure.
Beaucoup. Donc, voilà, après... on a eu des... Bon, ça, j'avais oublié, en fait, un des petits combats, en fait, c'était nos difficultés avec Enedis. Donc, c'est le responsable réseau, donc pour les raccordements. Donc, c'est vrai qu'au départ, il fallait près de 6 mois pour être raccordé par Enedis. Moi, à l'époque, ça ne s'appelait pas Enedis.
Est-ce qu'on peut dire qu'il traînait les pieds? C'était EDF à l'époque, puisque voilà, la privatisation n'était pas encore intervenue. Et je suppose qu'ils ne voyaient pas d'un très bon œil des producteurs d'énergie autonome.
Ce n'était pas très, très bien vu. Et bon, moi, je n'ai pas bien compris. Bon, c'était donc la première installation qui avait été raccordée. Une des premières, puisqu'il y en avait une un petit peu avant moi dans le Pas-de-Calais. Et ils me l'ont branché à l'envers. Bon, ce n'est pas grave, le compteur a tourné à l'envers. Mais après, bon, ça a été compensé. Mais bon, c'est vrai que ces idées reçues... voilà, sur l'ensoleillement, sur le recyclage, sur la durée de vie des panneaux. J'ai quand même eu, dans une réunion publique, quelqu'un qui m'a sorti que la durée de vie des panneaux, c'était 10 ans. Donc, moi, je rappelle que là, ça fait donc 20 ans que l'association est née. Mes panneaux fonctionnent depuis 2003, donc on est déjà à 22 ans. Ils ont quasiment pas perdu de rendement. Normalement, c'est 1% par an. Mais là, je ne sais pas pourquoi. On a plein de soleil en ce moment. Donc, finalement, cette année, j'ai eu la même production qu'il y a 20 ans. Je ne sais pas si vraiment l'ensoleillement. Puis, je dirais que là, on va dire, quand il n'y a pas de pluie, ça produit. Donc, on a... Et après, le credo, en fait, l'information principale... c'était que les panneaux solaires n'aiment pas la chaleur. Ils perdent en rendement. Donc, finalement, ce qu'on a d'ensoleillement en moins, on gagne en production parce qu'il fait moins chaud. Et il y avait même des producteurs à Dunkerque qui avaient leur facture refusée par... donc, c'est l'obligation d'achat qui est gérée par EDF, parce qu'ils produisaient donc les 1100, 1150, presque autant que dans le sud de la France. Donc, c'était un peu compliqué.
Le premier combat de Solaire en Or, ça a été de vaincre un peu cette indifférence ou ces préjugés.
C'est ça.
Mais en plus, les alternoiements des autorités chargées d'acheter l'énergie solaire.
C'est ça. On a déjà un des... l'association n'était même pas encore créée, qu'on avait il y avait des difficultés de raccordement. Du fait qu'il y avait eu un accident sur une ligne de tension et les assureurs ne voulaient pas assurer le photovoltaïque. Donc, réunion, c'était en 2004, réunion à Paris avec Espul et donc les différentes personnes concernées. Finalement,
c'était spécifique dans le Nord c'était des difficultés que rencontraient toutes les...
C'était national. Et donc... finalement, il y a eu un aveu de GRDF qui disait qu'il valait mieux avoir des panneaux solaires qu'une chaudière à gaz dans sa maison. C'était beaucoup moins dangereux. Et donc, il y a eu un communiqué de presse donc là, d'Espul au niveau national. Et au niveau ils avaient contacté... Il y avait les assureurs qui étaient là. Donc, ils ont accepté d'assurer les installations des particuliers à partir de ce moment-là. Donc, ça, c'était un petit combat de tous les jours. Après, sur les idées reçues, il y en a à peu près... on a fait un argumentaire, il y en a une dizaine... je ne vais pas toutes vous les citer. Mais...
On va y revenir plus tard dans l'émission. Mais un autre temps fort vécu par l'association Solaire en Or, quelle a été par exemple l'installation la plus importante, toujours pour des particuliers puisque c'était votre approche, qui a fait que vous avez eu une reconnaissance, une visibilité. Et moi, je me souviens d'une époque où on a commencé à avoir des articles sur le.
Oui, c'est ça. C'est
des reportages de
c'est
France
qu'en fait,
3.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on. Moi, j'ai été invité à une émission, c'était La Quotidienne, à Paris, pour parler du photovoltaïque. Donc, petit à petit, ça fait son chemin. Et on a réussi à convaincre des élus pour travailler avec la ville de Lille, pour travailler sur des projets coopératifs citoyens. La région était engagée, le conseil régional à l'époque. Là, actuellement, donc depuis 2020, il y a eu des changements de statut. Donc, il y a eu une évolution de l'association. Ils sont 3 salariés. Donc, il y a
vraiment, un développement. En
voilà, il y a un bon développement. Ils travaillent sur le cadastre solaire au niveau de la MEL. Donc, si un particulier veut savoir si sa toiture est bien adaptée pour mettre du photovoltaïque, parce qu'il y a quand même énormément d'arnaques. Donc, c'est vraiment un danger, parce qu'ils vendaient des installations, encore il y a 5 ans, à 20 000 euros. C'était le prix qui était pratiqué il y a 20 ans. Et sauf que les gens, ils ne peuvent pas rembourser ça. Mmh. Alors qu'une installation photovoltaïque, actuellement, c'est entre 6 et 7 000 euros. Donc, posée, installée par des gens qualifiés. Là, c'est des entreprises qui déboulent de la région parisienne ou d'ailleurs, qui font des one shot et qui disparaissent aussi vite. Voilà. Donc ça, c'était un grand combat, parce que c'était convaincre les élus de communiquer aussi là-dessus, et après convaincre la région. Et le cadastre solaire, en fait, est là pour ça, justement.
Il objective un peu les capacités possibles.
Possibles et pouvoir être conseillé, parce que quand on sort de certains, moi, je vois des panneaux plein nord. J'en vois régulièrement en face de Carrefour à l'Homme. Les panneaux sont plein nord, quoi. Mmh. Donc
la production ne doit pas être
non, c'est pas optimum. Voilà.
Donc important.
C'est pour ça qu'il faut pas hésiter, quand on a un projet, à contacter l'association Solaire en Nord.
Alors, de toute façon, quand on parle d'énergie en France, on est sûr, hein, si vous avez déjà essayé ce type de débat dans un repas de famille ou avec des potes autour d'impôts, on est sûr du clash. Alors, on va essayer tout à l'heure de faire la part des choses entre le vrai, le faux, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et les incertitudes, puisque je pense que le maître mot dans l'énergie, c'est l'incertitude, et la difficulté, c'est d'avoir une visibilité. Et on va faire ça dans un instant. En attendant, justement, je vous propose d'écouter la célèbre chanson du groupe The Clash. Stay, should I go?
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Thank you.
should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble.
Et on continue à parler d'énergie solaire en compagnie de Thierry Janson de l'association Solaire en Or qui fête ses 20 ans cette année et qui nous a expliqué un petit peu le parcours du combattant pour une énergie qui voulait promouvoir donc cette énergie renouvelable avec tous les préjugés qu'il fallait combattre. Et ces préjugés, il en reste. Et d'ailleurs, au-delà même des préjugés, il y a des questions qui se posent, Quentin.
Oui, tout à fait. Alors déjà, dans un premier temps, je vais rebondir sur quelque chose que vous avez dit justement au cours de cette émission par rapport au recyclage. On entend beaucoup effectivement que le solaire est une énergie qui est peu recyclable, que justement on ne sait pas quoi faire de ces panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement comment fonctionne le recyclage d'un panneau solaire à l'heure actuelle en France ?
Alors, actuellement en France, il n'y a pas tellement de recyclage de panneaux. En fait, il faut qu'ils arrivent en fin de vie. Comme les premiers ont été installés il y a 25 ans, que leur durée de vie c'est de 20 à 30 ans, donc on a une filière qui s'est créée, du moins il y a une filière qui s'est créée pour récupérer les panneaux qui peuvent être cassés ou des choses comme ça, mais il y a des filières qui existent en Allemagne et ils recyclent 95% des matériaux. En fait, c'est du verre, de l'aluminium, du cuivre. Donc tout ça, c'est recyclé. Et après, il faut trouver la bonne méthode pour séparer tous les
Alors,
matériaux.
Alors, il n'y a pas dans les constituants d'un panneau solaire de produits qui posent problème. En fait, tout est facilement recyclable.
Alors, justement, ça a été aussi dans cet argumentaire. On a même écrit... Alors, c'était M. Pignon, je crois, qui avait fait Terre rare, énergie renouvelable. Il avait fait un livre complet... Sur
parce qu'on parle beaucoup justement
voilà,
de ces terres
sur
rares.
Sur les terres rares dans les et il n'y a pas de terres rares dans le photovoltaïque. Bon. Donc voilà, on lui a quand même envoyé un courrier. On a dû lui envoyer des documents de l'ADEME qui explique qu'il n'y a pas de terres rares dans le photovoltaïque. Après il y a des couches dans certaines couches minces, il va y avoir du césium, du machin, mais c'est des technologies, c'est 1% du photovoltaïque dans le monde. Donc voilà, c'est ceux justement qu'on envoie.
Pas pire qu'un téléphone portable.
Pas pire qu'un téléphone portable.
Ou une télévision.
Oui, voilà, c'est non, ça. Même en général, relativement mieux, il n'y a pas de lithium directement dans le panneau solaire.
Il n'y a pas du tout de lithium.
Il me semble, alors peut-être je dis une bêtise, il me semble que l'un des matériaux les plus compliqués à recycler, ça reste le silicium dans un panneau solaire. Je ne sais pas si ce n'est pas à hauteur de 97% au niveau du recyclage de silicium.
Oui, c'est ça. Bah, 97%, c'est déjà honorable. Voilà. Hein. Donc, c'est en fait le silicium. Voilà, c'était aussi. On disait beaucoup que il fallait du silicium et qu'on était. Mais en fait, le silicium, c'est du sable. Et par rapport à tout ce qui est informatique, le silicium est moins pur pour le photovoltaïque. En fait, donc déjà à ce niveau-là, ça demandait. Il y a eu alors. Les Ouïghours en Chine aussi, sur le travail, c'était un argument qui tenait pas, en fait, parce que finalement, le photovoltaïque, c'est une industrie qui est très automatisée. Donc, il y a très peu d'intervenants humains. Donc, tout ça, c'est des fake news qui circulent, qui sont là pour discréditer une filière qui est en plein essor et qui gêne, en fait, quelque part.
Donc, le recyclage, pas de problème majeur.
Pas de problème majeur.
Absolument. L'utilisation, le fait que ça vienne essentiellement de Chine et l'utilisation du travail humain dans de mauvaises conditions, relativement mineure également, puisque automaticité des chaînes de production.
Et après, c'est un désastre industriel français, parce qu'en fait, ils ont fait un choix politique de développement du photovoltaïque. Au niveau des grandes centrales au sol qui imposent une baisse des coûts. Et il y a des entreprises qui devenaient fleurons du développement du photovoltaïque. La dernière en date, elle était sur la région de Nantes, qui ont fait faillite parce que pas de débouchés pour le photovoltaïque européen.
Alors justement, pour revenir sur l'utilisation, enfin la production de panneaux solaires, on entend beaucoup parler de justement l'énergie solaire, une énergie propre, énergie renouvelable, etc. Mais dans le fond, pareil, on entend beaucoup d'informations circuler sur la production de panneaux solaires en Chine. Mmh. Vous en parlez justement au niveau du travail humain, etc. Mais je vais plutôt me focaliser sur l'utilisation de centrales à charbon en Chine pour la production de panneaux photovoltaïques qui, elles, sont renouvelables. Est-ce qu'on n'entrerait pas... Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce que la production chinoise, du coup, rentre pas dans une forme d'hypocrisie autour du panneau solaire en se disant... En fait, on va produire du solaire avec du charbon qui, elle, pourtant, de base, est déjà une énergie qui est fossile et carbonée.
Alors ça, c'est dès le départ, hein, ça a été un des principaux arguments des gens qui sont contre le photovoltaïque. C'est, en vrai, c'est le CO2. Tout se calcule maintenant. Hein, donc, ça représente un an ou deux ans. J'ai plus les chiffres aussi, c'est 2, 2 et demi.
J'ai entendu parler d'entre 1 et 3 ans.
Voilà, c'est ça, 1 et 3 ans, en fait, de temps de retour de CO2 en produisant.
Alors, c'est-à-dire que l'énergie, enfin, le CO2 économisé en utilisant des photovoltaïques, il faut 3 ans
pour compenser ce qu'on a fabrication.
Utilisé au départ. Donc, autrement dit, on commence à être vraiment économe en CO2 à la 4e année ou à la 3e année.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce que justement, cette capitalisation autour du panneau solaire, parce que bah, comme vous l'expliquiez, il y a plus de 20 ans, vous commenciez déjà à parler de panneaux solaires, et on sent qu'au fur et à mesure des années, de plus en plus d'entreprises y voient, au-delà de l'aspect écologique, un aspect économique intéressant.
Oui.
Est-ce que vous, dans votre position d'ancien président du coup, de cette association sur le solaire, quelle est votre vision sur ces entreprises qui capitalisent le panneau solaire, non pas comme un produit pour l'écologie, mais plus pour un produit pour leur économie personnelle ?
Alors ça, déjà, pour moi, c'est un bon point, parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu travaillé avec la Chambre de commerce. Il y a eu Rifkin aussi qui est passé par la région, troisième révolution industrielle. Pour convaincre un industriel d'investir, eux, le temps de retour, c'est 3 ans, 4 ans quand ils investissent dans du matériel. Donc, du photovoltaïque où il faut attendre 10 ans pour avoir un temps de retour, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que là, il y a Getlink qui a un grand projet au niveau de l'Eurotunnel, des millions d'investissements en panneaux solaires photovoltaïques. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pourrais vous les donner. Il y a des magasins comme Aldi, Lidl qui s'équipent de panneaux solaires. Ils ont obligé aussi, quelque part, à couvrir les parkings. Les agriculteurs qui ont un besoin d'électricité pour conserver la pomme de terre, pour conserver au frais certains de leurs produits, ils ont tout intérêt à avoir du photovoltaïque pour produire déjà pour un parti. Alors, par rapport à eux, je ne sais pas le ratio, mais c'est un peu dommage de payer une électricité deux fois plus chère quand on peut la produire soi-même, finalement, c'est moins de 10 centimes le kilowattheure, alors qu'EDF, on est déjà à 20 le kilowattheure. Donc, si on peut économiser sur ça, c'est déjà bien. Après, je pense que, quelque part, les entreprises, ils ne sont pas dupes. On arrive... alors, on connaît tous le problème des centrales nucléaires qui arrivent déjà... qui ont été repoussés, hein, donc il va falloir faire des maintenances, le coût de l'énergie va augmenter. On a vu ce que ça fait, quelques méduses à Gravelines qui ont tout bloqué récemment. Il va y avoir, alors justement, dans la réunion d'experts qu'il y avait eu sur les 20 ans de solaire en or, il y avait l'association Negawatt, qui est une grande association qui promeut donc l'efficacité, la sobriété, pour justement, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ils expliquaient qu'il y a un moment entre la construction des futurs EPR qui ne sera pas avant 2035, peut-être même voire 2040, il y a des centrales qui vont sûrement devoir s'arrêter, donc il va y avoir un effet falaise. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des coupures qui vont peut-être être assez brusques au niveau d'approvisionnement énergétique pour la France. Donc après, on est relié, on est interconnecté avec l'Allemagne, l'Espagne, etc.
Mais à un moment où la consommation d'électricité monte, puisqu'on transforme une partie de l'appareil productif vers l'électricité, oui. Y compris le transport.
D'ailleurs. Donc autant commencer à s'équiper et se prémunir d'éventuelles coupures. Bon, forcément, ça va nous prémunir que pendant la belle saison, l'hiver, on n'aura pas d'autre solution et ce sera un peu plus compliqué. Mais voilà, il y aura toujours une alternative. Pour eux, je pense qu'il y a, il y a un modèle qui se construit en se disant, on va faire, ils commencent à réfléchir en se disant, on va faire des économies à long terme. Et puis après, il y a aussi un verdissement, quelque part, de leur image.
Et pour terminer avec une petite question que j'aimerais vous poser personnellement, comment vous voyez l'évolution de l'énergie solaire dans les prochaines années et quels inconvénients ou même quelles adaptations vous voyez être mis en place dans les prochaines années? Comment vous voyez donc justement cette évolution de l'énergie solaire en France plus globalement?
Plus globalement. Alors c'est un vaste sujet parce que voilà, on avait l'exemple du gaz russe. On n'avait pas de problème pour en avoir. Ça pouvait. En fait, il y avait le photovoltaïque. Toutes les énergies renouvelables sont complémentaires. Elles sont peut-être pas. Elles fonctionnent pas toujours en même temps, mais elles sont généralement prévisibles. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir des modèles et savoir combien va produire le photovoltaïque dans 15 jours, le vent pareil. Donc, il y a des moyens de production d'énergie autre que renouvelable. Donc, il y a le stockage qui existe.
Alors, là, moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur le stockage, que c'est un des préjugés aussi ou des questions qui se posent. C'est comment on fait pour stocker de l'énergie solaire? Alors, déjà, on ne sait pas stocker de l'électricité en soi. Il faut la faire circuler. Et l'énergie solaire, est-ce qu'il n'y a pas une plus grande difficulté à la stocker que les autres énergies? Parce que l'eau, par exemple, dans les barrages, on ferme le barrage. Mais l'énergie solaire, le soleil brille, on produit. Qu'est-ce qu'on fait de l'élec si on ne l'utilise pas?
Alors, justement, c'est le stockage. C'est, je pense qu'on est là sur un... Pareil, je parlais d'effet falaise. Là, c'est l'effet bloqué, en fait, en France. C'est qu'on ne travaille pas sur le stockage.
Pas assez de recherche.
Donc, il y a. En Angleterre, ils ont monté une STEP. Donc, ils récupèrent en fait l'énergie de l'eau. Ils la font monter, ils la font descendre quand ils en ont besoin pour faire de l'électricité. Donc, ils sont en projet de monter ça, une des plus grosses STEP au Royaume-Uni. En Australie, ils sont. Alors, moi, j'ai ma fille qui était en Australie il y a 4 ans. Ils ont même travaillé à la pose de panneaux solaires. Et ils ont été tellement vite que maintenant, ils sont en surproduction d'énergie photovoltaïque.
Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette énergie?
Et pour l'instant, rien. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé cet été, avec il y a eu des problèmes de prix négatif de l'électricité, parce qu'il y avait du solaire et de surproduction. Donc, forcément, alors il y en a qui disent, attention, il faut arrêter les énergies renouvelables, on a trop d'énergie. Mais non, parce que il faut justement mettre en place...
La planification.
Voilà, il faut de la planification dont on parlait tout à l'heure, avec la PPE. Et justement, il y a déjà l'Australie qui commence à réfléchir à optimiser son stockage. Donc, il y a des choses qui existent. Lors des paroles d'espère des 20 ans de solaire en or, il y avait Terre de Liens, en fait, qui est une association partenaire qui aide les agriculteurs, etc. Et il y avait une personne qui était là, qui nous expliquait, ils ont vu beaucoup de containers au pied des éoliennes apparaître. Et en fait, ils commencent justement, comme il y a des prix négatifs de l'énergie, ils stockent en bas des éoliennes et ils vendent plus tard.
Mais ils stockent dans des batteries?
Ils stockent dans des batteries.
D'accord.
Alors, sur la batterie... Vous allez peut-être me poser la question ou pas, mais sur le lithium, c'est vrai que c'est un sujet aussi qui est très délicat. Et donc, en fait, les ingénieurs de l'ENSAM nous ont expliqué qu'en fait, maintenant, le lithium, c'est 1% de la batterie, de la masse totale de la batterie, par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était 80% de la batterie. Donc, il va y avoir une évolution. On va peut-être pouvoir aussi se passer de lithium. Il y a d'autres moyens de stockage que les STEP ou que la batterie, on peut fabriquer de l'hydrogène qui peut servir à nouveau à fabriquer de l'énergie. On peut stocker de l'hydrogène. Alors ça, c'était pendant des années, il y a eu on a discuté en région et en France sur le développement des énergies renouvelables. Donc il y avait des réunions un petit peu partout. C'était à l'initiative de M. Borloo à l'époque, hein, il était au ministre du Développement Durable. Et il y avait GRDF qui était très impliqué, parce qu'ils ont une capacité de stockage de gaz. Ils peuvent compresser énormément de gaz dans leur réseau et le redistribuer après, donc pour l'utiliser, pour reproduire de l'électricité par la suite. Donc il y a toute cette évolution, l'évolution de la biomasse, alors qui fait un petit peu débat, parce que ça prend sur les terres agricoles. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place progressivement. Et il y a des solutions technologiques qui arrivent. Si vous voulez, je peux vous envoyer ce que nous ont dit les ingénieurs de l'ENSAM, parole d'espère, mais là, moi, j'étais un petit peu largué. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent.
On fait une dernière pause musicale dans cette émission caractère consacrée à Solaire en or et à l'énergie renouvelable du solaire. Every Break You Take, The Police sur EFL Radio. Vous êtes toujours à l'écoute donc de FL Shop et on parle solaire cette semaine avec Thierry Janson de l'association Solaire en Or. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on ait une petite réflexion sur comment on voit le mix énergétique d'ici 2030. Alors, il y a les tenants d'énergie durable complètement, il y a les tenants des centrales nucléaires, la seule solution, c'est l'énergie nucléaire, et puis il y a les tenants de ce qu'on appelle le mix. Mais quelle va être la place des énergies renouvelables, et spécifiquement du solaire, puisque c'est notre propos aujourd'hui, dans ce mix en 2030, Thierry?
Alors, je ne suis pas devin.
C'est vrai, qui eût cru que le gaz allait complètement s'effacer suite à un conflit géopolitique?
C'est ça. Le photovoltaïque va se développer. Et si ce n'est pas en France, ça sera partout à l'étranger. Il y a justement, comme les coûts ont fortement baissé, si on compare maintenant le photovoltaïque en prenant en compte du stockage batterie, on est quasiment au même prix du kilowattheure, dans ces cas-là, il parle en mégawattheure, de production des futurs EPR. Voilà, donc c'est vrai, c'est devenu une énergie qui est très rentable, en fait.
Compétitive.
Donc ça valait en se développant, parce qu'on aurait tort de s'en priver. Et après, le mix énergétique de demain, ça dépend de beaucoup de facteurs géopolitiques aussi, dont on ne tire pas toutes les ficelles. Donc c'est ça, l'idée... C'est quand même de se dire, allons-y, fonçons, même si on arrive à des problèmes de saturation de réseau. De toute façon, le réseau, il sait très bien se gérer. RTE, au réseau de transport d'électricité, ils ont des outils. On est loin de la panne qu'il y a pu y avoir en Espagne. Il y a eu quand même énormément de choses qui ont été dites sur les renouvelables. Il y a eu donc sur tout ce qui a pu se dire, il y a même donc la commission de régulation de l'énergie, donc qui est celui qui décide en France sur le prix, par exemple, de l'électricité qu'on va payer en tant que citoyen, en a même été jusqu'à publier des arguments pour lutter contre toutes ces fake news sur l'augmentation du prix de l'électricité serait due aux énergies renouvelables, etc., etc., qu'il faudrait arrêter le développement des ENR parce qu'on produit déjà trop d'électricité. Toutes ces réponses, on peut les trouver sur justement la commission de régulation de l'énergie. Il y a des institutions comme Negawatt. Ils ont, alors je parle de Negawatt, mais je vais quand même saluer Virage Énergie qui est donc une association locale, donc de Nord-Pas-de-Calais initialement, qui a été créée un petit peu après Solaire en Or, et donc qui a démontré qu'on pouvait très bien se passer de la centrale nucléaire de Gravelines. Donc après, c'est ce mix énergétique qu'il faut réussir. Alors, ça va sûrement évoluer en fonction des technologies. Peut-être, il y en a peut-être un qui va peut-être prendre plus le dessus que d'autres. Mais le réseau de transport de l'électricité, l'ADEME, je pense que c'était déjà il y a 5 ans, ont publié des études, des scénarios avec 100% d'énergie renouvelable, 75%, 50%. Donc tous ces scénarios existent quasiment au même coût, en se disant que les énergies renouvelables, c'est une source d'emploi considérable, parce que c'est une énergie locale qui est produite localement. Si on peut redévelopper des entreprises qui produisent des panneaux, c'est le top. Donc ça fait de la maintenance, donc c'est des gens, des ingénieurs, des techniciens qui vont travailler à la maintenance, au suivi des installations. Quand on parle gestion, piloter l'énergie chez un particulier, dans une usine, tout ça aussi, c'est des gens qui travaillent en France pour la maintenance qui fait un peu craquer.
C'est de l'emploi non délocalisable.
C'est ça. C'est ça.
Un dernier mot, Quentin?
Eh bien, alors là, tout de suite, pas forcément, mais en tout cas, c'est un sujet qui est super intéressant. Faudrait peut-être même qu'on prenne le temps aussi de se pencher sur toutes les autres énergies renouvelables, parce que là, on parle beaucoup forcément du solaire, mais sans oublier tout ce qui est hydraulique, éolien, même géothermique, etc., dont on parle très peu. Et c'est forcément des sujets qui sont énormément tournés vers l'avenir. Hein, on le disait justement sur la pause musicale, avec l'arrivée. Alors, on parle souvent de réchauffement climatique, on est plus sur le changement climatique. On va se retrouver avec de plus en plus de journées justement d'ensoleillement, ce qui, de manière assez ironique, profite au solaire au final, parce que ça lui permet des meilleurs rendements. Donc non, ça va être c'est un sujet qui est super intéressant et qui vaut le coup d'être approfondi. Même sur plusieurs émissions.
Eh bien, on aura l'occasion d'y revenir dans nos émissions sur FL Radio. On va remercier notre invité, Thierry Janson, qui est venu nous voir à l'occasion de ces 20 ans de Solaire en Or, une des associations pionniers, si ce n'est la pionnière, en tout cas, dans les Hauts-de-France, en ce qui concerne la promotion de l'énergie solaire chez les particuliers. L'idée étant d'être producteur de sa propre énergie. Et donc, on souhaite longue vie à cette association, en tout cas, qui apporte sa part dans la réflexion sur ces problèmes énergétiques. Et quant à nous, sur FL Radio, bien sûr, tu as raison, Quentin, on continuera à suivre ces questions. Merci à tous. Merci à Kevin, qui est aux manettes aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouvelles émissions FL Shop et d'autres émissions de la grille d'FL Radio.